Dieu est-il réel pour moi? Est-ce que je parle avec Dieu comme on parle avec son ami? Est-ce que j'ai un dialogue avec mon Dieu? Est-ce que je l'écoute aussi? Est-ce que j'entends sa voix dans mon cœur? Est-ce que Dieu exauce mes prières? Est-ce que j'ai des réponses? Est-ce que je le remercie quand j'ai des réponses? Est-ce que Dieu m'accompagne partout? Ou plutôt, est-ce que je l'emmène partout où je vais? Est-ce que je suis conscient que Dieu est présent lorsque je suis chez moi, lorsque je suis au travail, mais surtout lorsque je suis ici avec les frères et sœurs? Lorsque je suis dans la prière, dans la réunion de prière, est-ce que je suis conscient que Dieu est là, qu'il m'entend, qu'il me voit? C'est arrivé assez souvent que des chrétiens aient une crise de foi, et alors pas le foi ici, mais une crise de leur foi, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne vivaient pas la présence de Dieu, la réalité de Dieu, mais qu'ils vivaient une religion avec un Dieu lointain, un Dieu presque imaginaire en fait. On l'imagine, mais on n'a jamais de relation avec lui. On a les bons mots religieux, on chante même des cantiques, mais au fond, le cœur n'y est pas. Il n'y a pas cette relation vitale, presque intime, avec son Dieu. Job, dans la Bible, a connu cette expérience, cette crise de foi. Si vous regardez avec moi dans votre Bible, la fin du livre de Job, le chapitre 42, Dieu vient de se révéler d'une façon spectaculaire et forte à son âme. Dieu lui a parlé et Job répond, chapitre 42, Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» dit Dieu. Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job, après cette expérience dramatique, il a perdu toute sa famille dans des catastrophes. Il a perdu tous ses biens matériels. Il était assez riche, c'était un patriarche de l'époque d'Abraham probablement. En plus, il a perdu la santé. Et là, il s'est retrouvé avec des ulcères sur tout le corps, en souffrance. Non seulement ça, mais sa femme l'a laissé tomber en disant « Maudit Dieu et meurs, puisqu'il t'arrive tout ça ». Il a des amis qui sont venus le voir pour le consoler. Et ses amis se sont retournés contre lui en disant « Si tu as tout ça, c'est que tu as dû faire des grands péchés. Dieu est en train de te punir, de te juger. Alors confesse-toi, repens-toi. » Et Job n'avait rien fait de spécial. Il dit « Je ne vois pas ce que j'ai fait, je ne vois pas pourquoi j'ai subi toutes ces choses. » Et c'est ça qui nous étonne dans le livre de Job, hein, c'est cette catastrophe injuste en apparence. Mais à la fin du livre, tout s'éclaire lorsque Dieu parle directement à Job et que Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et dans le texte, on ne voit pas que Dieu se soit montré physiquement à Job, hein. On ne peut pas voir Dieu. Dieu n'a pas de corps physique. Il est esprit. Alors pourquoi il dit « Mon œil t'a vu » Mais je pense que c'est son œil spirituel. Hein? Il a vu Dieu alors qu'avant, il avait seulement entendu parler de lui. Et quand on réalise ça, hein, ça peut créer une crise, mais une crise bénéfique. Les crises, souvent, ont un bon côté. Hein? Les crises permettent de se réveiller et de dire « Mais ça ne va pas, il faut faire autrement. Hein, » La France essaye de se réveiller de la crise mondiale qui touche, la crise économique. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va faire tous nos efforts pour se réveiller. Mais nous, on veut se réveiller spirituellement. J'avais lu le livre de ce pasteur, américain, Peter Lord, qui avait une église assez grande, 400 personnes qui venaient le dimanche, une bonne santé financière de l'église, tout se passait bien, sauf que Dieu n'était pas réel pour lui, ni présent. Pourtant, c'était un pasteur expérimenté, tout ça, il dit, non, il se passe rien. J'avance pas, je n'ai pas de relation avec Dieu, je ne vois pas la gloire de Dieu. En fait, il était comme un patron d'une entreprise, il avait ses 400 personnes qui venaient, il gérait ça très bien, mais il dit, je gère pas une église, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il manque quelque chose. Alors il a écrit une lettre à Dieu, et il a dit, Seigneur, si dans 3 semaines, je ne découvre pas plus de toi, si tu ne te révèles pas à moi, je vais démissionner, parce que je ne suis pas digne de continuer à être pasteur dans ces conditions. Un pasteur, pour moi, doit connaître Dieu et avoir une relation vitale, et moi, je suis bloqué. Et donc, il écrit toute cette lettre, il signe, il met dans une enveloppe, dans un tiroir de son bureau, et il dit, Seigneur, je t'ai dit ça, je le pense sincèrement, maintenant je cherche ta face. Et il a commencé à chercher Dieu. Chaque fois qu'il ouvrait la Bible, il disait, Seigneur, parle-moi. Chaque fois qu'il priait, il disait, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Quand il était à l'église et qu'il s'occupait de l'église, est-ce que Dieu est là? Il a commencé à devenir conscient qu'il fallait que Dieu soit là. Et puis, Dieu a répondu au-delà de ce qu'il avait demandé ou imaginé. Il a vraiment connu un réveil personnel et ça a touché son église. Et au bout, bien avant les 3 semaines, il a pu déchirer sa lettre et dire, Seigneur, tu es un grand Dieu, tu as répondu. Et Dieu a promis, il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et cet homme a cherché Dieu de tout son cœur. Job, malgré tout ce qu'il a subi, il ne s'est pas éloigné de Dieu. Il a continué à parler à Dieu et Dieu s'est révélé à lui et dit, mon œil t'a vu. Qu'est-ce qui fait que Dieu n'est pas réel dans notre vie chrétienne? Eh bien, d'abord, la religiosité. C'est quoi la religiosité? C'est quand on a remplacé la foi, l'amour, la relation avec Dieu par des rites. Vous avez des rites, alors on accomplit ça. À tel moment, tu fais tel geste et tu dis tel mot et telle prière et tel chant et tel truc et on est tous, tout est codifié, vous n'avez plus même à réfléchir. C'est le rite. Et il y a des gens qui aiment bien, il y a des croyants qui disent, moi, le rite, ça me rassure, ça me fait du bien. Au moins, je sais ce que je vais avoir. Un petit peu comme les gens qui vont à McDonald's, parce qu'ils disent, je sais au moins ce que j'ai. C'est toujours la même chose. Et c'est une bonne comparaison, parce qu'il y a autant de différence entre McDonald's et un restaurant 3 étoiles qu'entre le rite et la vraie foi. Le rite répétitif, les superstitions aussi, c'est-à-dire, si on fait ci, Dieu fera ça, et si on fait pas ci, Dieu fera pas ça, et on est dans la superstition. La superstition, c'est souvent la crainte, la peur, une peur vraiment irrationnelle, qui n'est basée sur rien, que sur des rumeurs. Il y a aussi les prières répétitives, où au lieu d'ouvrir son cœur à Dieu dans la prière, on répète une prière, on répète des choses à l'envi, pensant que Dieu va être content avec ça. Imaginez qu'on ait des conversations comme ça où on répète tout le temps la même chose. Hein, on est à table, on est deux là, et je commence, tu sais, Stéphane, vraiment, je souhaite que ta vie se passe bien et que tu sois béni et que tu sois heureux dans ta vie. Alors Stéphane dit, merci beaucoup Emmanuel, c'est gentil. Et puis je continue, tu sais Stéphane, je souhaite vraiment que ta vie se passe bien, que tu sois béni, que tu sois heureux dans ta vie. Oh, merci, vraiment. Tu sais, Stéphane, je souhaite que... Bon, d'accord, j'ai compris, merci. Mais on fait ça avec Dieu, parfois. On a des paroles stéréotypées, on lui répète des choses. Il y a des prières qui sont écrites, des fois, toutes faites, où les gens les répètent en disant, j'espère que si je la répète 10 fois, 50 fois, là, je vais être exaucé. C'est vraiment mal saisir la vie éternelle, la relation avec Dieu. Souvent, la religiosité aussi, c'est dans l'apparence, c'est l'extérieur. Il faut qu'on ait l'air bien, qu'on ait l'air sage, pur, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Jésus a dit, hein, vous êtes comme des tombes blanchies, il disait ça aux pharisiens. Qu'est-ce que c'est les tombes blanchies? Vous savez, c'est ces belles pierres tombales qu'on blanchissait à la chaux, donc elles brillaient au soleil, c'était magnifique. Mais il dit, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Dedans, il y a des os pourris, hein, dedans, il y a la mort. Et il disait, vous êtes comme ça, vous êtes blanchis au dehors, tout beau. Mais quand on ouvre la tombe, hein, on ne trouve pas de belles choses. Hein. Et on peut être un chrétien comme ça, un tombeau blanchi. C'est dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul a écrit à Timothée. Je vais vous lire 2 Timothée 3:5. Il met en garde Timothée contre ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la vie à l'intérieur. Donc, ils sont religieux, ils ont une religion, ils ont les rites, ils ont tout. Oui, moi j'ai fait mon baptême, ma communion, hop. Mais il n'y a pas la force, il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans leur vie. Il y a une autre façon aussi de se tromper sur la réalité de Dieu, c'est avec le mysticisme. Le mysticisme, c'est une forme d'expérience religieuse où on pense que Dieu doit se manifester par des choses bizarres. On pense que Dieu doit amener des phénomènes étranges, des transes par exemple. On rentre en transe. Il y en a qui tombent par terre dans les églises, hein, en transe. Des extases. Alors l'extase, c'est un peu avant la transe. Hein. Vous êtes là, vous avez les yeux fermés, vous avez les yeux qui se révulsent un petit peu, et puis vous vous balancez et vous commencez à partir. Vous essayez de faire le vide total, vous n'êtes plus là, vous décollez, vous voyagez dans votre esprit. D'autres qui cherchent des émotions fortes, il faut pleurer, crier, rire. Souvent, il y a beaucoup de désordre. Ce n'est pas la réalité de Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu l'Ancien Testament, mais vous devez vous rappeler, lorsque Élie était découragé dans sa grotte, Dieu s'est manifesté à lui. Et Élie a vu des choses extraordinaires. Il a vu d'abord une tempête, un vent, mais une tornade terrible. Et il dit, Dieu n'était pas dans le vent. Ensuite, il y a eu du feu qui est sorti et qui a tout consumé. Dieu n'était pas dans le feu. Puis finalement, il a entendu un murmure doux et léger dans les arbres. Il dit, Dieu était dans le murmure. Et c'était vraiment une façon de la part de Dieu de lui dire, je ne suis pas forcément dans les choses spectaculaires. Bien sûr, Dieu a fait des choses spectaculaires dans la Bible. Hein. Quand on ouvre la mer Rouge, bon, ce n'est pas un murmure, là. Quand on ressuscite de la mort, c'est fort. Mais dans la relation de tous les jours, Dieu ne va pas ouvrir, si vous êtes sur l'autoroute à 6 à 8 heures du matin, Dieu ne va pas ouvrir les voitures pour que vous passiez. On aimerait des fois. Hein. Dieu nous parle dans des choses subtiles parfois. Ce n'est pas dans les extases, dans les transes. Dieu veut qu'on réfléchisse, qu'on garde notre intelligence. Mais il veut qu'on ait une relation intelligente, intelligible avec lui. Le mysticisme coupe l'intelligence. Il se met dans le niveau de l'émotion pure. Et il recherche des expériences personnelles. Et souvent, c'est des expériences qui vous font du bien. Enfin, vous sentez une chaleur, vous vous sentez transporté. Vous avez une joie ineffable, mais le lendemain, vous revenez à la maison et vous êtes dégonflé, hein, parce que c'est du mysticisme. Quand Dieu est dans votre cœur, ça ne dure pas une heure ou deux heures, ça dure toute la vie. Et on ne cherche pas une expérience avec Dieu, on cherche à marcher avec Dieu, à le connaître. Et en général, ce n'est pas nous qui ressentons quelque chose, c'est les autres qui sont bénis. Alors, Dieu n'est pas réel parce que souvent on est dans la religiosité ou on est dans le mysticisme, parce qu'on n'est pas conscient de sa présence, on ne fait pas attention à lui. C'est fou ça quand même. On s'appelle chrétien, on a la Bible, on prie et on ne fait pas attention à Dieu. On peut faire tout ça sans Dieu. On peut prier sans Dieu, on peut lire la Bible sans Dieu, on peut faire un culte sans Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui arrive dans l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse, où Jésus est à la porte de l'église, il est dehors. Il frappe, il dit, « Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, s'il vous plaît. » Vous imaginez ça, que le Seigneur soit dehors, que nous, on est là en disant, « Oh, nous sommes des merveilleux chrétiens. » Et en fait, le Seigneur n'est même pas là avec nous. On ne l'a pas invité. Comment mieux réaliser la présence, la réalité de Dieu? Alors, il faut d'abord comprendre une chose. Dieu n'est pas accessible à nos cinq sens. Dieu nous a créés avec la vue, l'ouïe, hein, le toucher, l'odorat, etc. Mais Dieu est invisible, Dieu est esprit. Mais il a créé un sixième sens, si l'on peut dire, qui est la foi par le Saint-Esprit. Par la foi, nous pouvons voir Dieu, comme Job a dit, « Mon œil t'a vu ». C'était par la foi. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, que l'apôtre Paul écrit « Nous marchons par la foi et pas par la vue ». On ne marche pas par la vue. Et c'est ça qui est difficile pour beaucoup. Mais comment tu fais? Où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Et il est invisible. Et ton salut? Alors, il t'a donné un papier qui dit « Oui, j'ai un papier, j'ai une promesse ici, mais il n'y a pas... » C'est à moi de mettre mon nom dans la Bible, de dire « Oui, je suis sauvé ». Mais sinon, je suis sauvé par la foi. Et le ciel, le paradis, tu parles du ciel et de l'au-delà, mais qu'est-ce que tu en sais? Mais je sais par la foi. Ce matin, on a vu la création. Est-ce que tu étais là, la création? Non. Mais je sais que c'est Dieu qui l'a fait par la foi. La foi voit l'invisible, elle voit le monde spirituel. Nos yeux, nos sens voient un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, quand on analyse de près, nos sens ne voient qu'un aspect de la réalité. Vous pensez que ces chaises sont rouges. Est-ce que vous êtes sûr que ces chaises sont rouges? Scientifiquement, hein, peut-être Steve pourrait nous le confirmer, hein, notre savant ici, notre physicien, les chaises ne sont pas rouges. Elles absorbent toute la lumière, toutes les couleurs, sauf le rouge. Et donc, comme elles n'absorbent pas le rouge, c'est le rouge qui ressort. Et fondamentalement, les chaises ne sont pas rouges, là. Nous les voyons rouges, parce que nos yeux et notre cerveau est fait pour voir, justement, un certain niveau d'onde. Mais les chiens, les autres animaux ne voient pas les couleurs comme nous. Il y a des animaux qui entendent mieux, qui voient moins bien, qui voient mieux. On a une perception très codifiée, hein, par nos sens. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas qui existent. Est-ce que vous voyez les atomes? Ben non, pourtant ils sont là, les atomes. Hein. Sans les atomes, il n'y aurait rien. On ne les voit pas. Pourtant, ils existent. Est-ce qu'on voit tout, par exemple, les acariens? Heureusement qu'on ne les voit pas, franchement. Vous avez déjà vu les photos au microscope des acariens, on dirait des monstres avec des pinces. Ah, quelle horreur! Heureusement qu'on ne voit pas les acariens, parce que là, on ne pourrait plus dormir. Hein. Mais tout ça, ça existe. Il y a un monde là, invisible, hein, qui se balade. Je ne veux pas vous effrayer. Hein. On a passé l'aspirateur, donc ça va. Mais il y a un monde spirituel. Il y a des anges de Dieu qu'on ne voit pas. Il y a des démons qui agissent dans le monde. Et ça, on voit les fruits des anges et des démons. Hein. On voit des gens sauvés miraculeusement par des anges et on voit aussi des personnes détruites et qui sont poussées au suicide parfois par les démons. Et il n'y a que la foi qui peut voir ça. On ne peut pas le voir avec nos yeux. Et donc, il faut accepter ça. Il faut le sixième sens, la foi et le Saint-Esprit. Et puis après, il faut ouvrir les yeux spirituels sur les réalités de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, Paul priait pour l'Église, pour les chrétiens, et il leur dit ceci, qu'il prie ardemment. Éphésiens 1, 18. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On voyait que Paul, là, lui, il avait déjà vécu ça. Lui, il voyait cette puissance de Dieu, il voyait cet héritage céleste qui nous attend. Il avait vu tout ça par la foi, mais les Éphésiens, là, apparemment, n'avaient pas encore vu tout ça. Ils avaient la vue courte et ils prient qu'ils ouvrent leurs yeux spirituels, hein, les yeux de votre cœur, que vous découvriez tout ça. Ça me fait penser dans l'Ancien Testament, hein, à Élisée, son serviteur. le roi de Syrie envoie une armée entière cerner le village où il se trouvait pour les arrêter. Et le serviteur du prophète Élisée dit, ça y est, j'ai ouvert la porte, j'ai vu la fenêtre. L'armée nous entoure totalement, on est coincé, on va être fini là, les Syriens vont nous tuer. Et Élisée lui dit, mais regarde dans le ciel, je ne vois rien. Mais tu ne vois pas l'armée des cieux, tous les anges qui sont avec nous? Il dit, non, je ne vois rien. Et on peut regarder, je vais regarder dans deux rois, si je ne me suis pas trompé de... Voilà, 2 Rois 6, 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et juste après, Élisée va amener par Dieu un aveuglement temporaire chez tous les soldats syriens et ils vont se sauver et personne ne va les trouver. Mais il a prié que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et je pense qu'on a besoin d'ouvrir les yeux sur la réalité de Dieu, sur la réalité du monde spirituel aussi, sur la réalité du jugement à venir. Dans sa deuxième épître, Pierre dit qu'il y a beaucoup de moqueurs qui disent « Mais où est la promesse de l'avènement de Jésus-Christ ? Vous nous parlez que Jésus-Christ va revenir, mais il ne se passe rien. » Alors aujourd'hui, n'en parlons pas, ça fait quand même 2000 ans que la promesse a été faite. Quand est-ce qu'il va revenir, votre Jésus ? Pourtant, il a promis qu'il reviendrait. Nous sommes certains qu'il va revenir parce que c'est par la foi que nous le croyons. On ne peut pas donner de date, mais il va revenir. Oui, ça c'est sûr. Et quand il va revenir, beaucoup vont être surpris en disant « Mais non, tout ça c'est de l'imagination de chrétiens crédules. » Et quand le Seigneur va arriver, ça va être trop tard. Ils ne seront pas prêts à rencontrer Dieu. Il faut ouvrir les yeux sur ce monde spirituel, sur la réalité de Dieu. Un autre exemple, c'était Balaam aussi, un autre prophète. Lui, c'était un faux prophète. Mais à un moment, il est bloqué parce qu'il va désobéir à Dieu et son ânesse qui le conduit s'arrête. Elle ne veut plus avancer sur le chemin. Alors il la frappe et il la frappe de plus en plus pour qu'elle avance. Et elle est là, vous savez, comme un âne peut être têtu si vous avez déjà travaillé avec des ânes. Et elle n'avance pas, il crie. Et l'ânesse, à un moment, lui répond, « Mais tu ne vois pas qu'il y a l'ange de l'Éternel qui nous barre la route avec son épée ?» Et Balaam, il dit, « Mais je ne vois rien du tout, moi. Qu'est-ce que tu racontes ?» Et déjà qu'une ânesse vous parle, bon, ça doit être... Il aurait dû se rendre compte qu'il y avait quelque chose. Mais il ne voyait pas. L'ânesse voyait plus les choses spirituelles que l'homme. Et je pense que là, il y a un message, c'est que... Quand on est aveugle spirituellement, on ne voit rien de rien. On ne voit rien de rien. Il y a des chrétiens aveugles spirituellement. On a vraiment besoin d'ouvrir les yeux. Le Seigneur est là. Quand on est dans l'épreuve, parfois on se sent seul, on est à la maison, on déprime, on dit « Seigneur, j'ai l'impression que rien ne va. J'ai l'impression que tu ne réponds pas à mes prières. J'ai l'impression que je suis seul. J'ai des problèmes l'un après l'autre et j'ai l'impression que tu ne m'en sors pas. » Et on descend, on se déprime. Et c'est là qu'il faudrait ouvrir les yeux. Montre-moi, Seigneur, que tu es là. Montre-moi la délivrance que tu prépares, comme le serviteur d'Élisée a vu tous ces chars de Dieu qui l'attendaient. On peut aussi ouvrir nos yeux physiques sur la réalité de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir les actions, les fruits de Dieu. Quand une vie est transformée, tout à l'heure, notre frère nous a dit comment Dieu a changé une partie de son caractère, de son attitude. Ça, c'est un fruit. Et ça, c'est un miracle aussi. Ce n'est pas peut-être aussi spectaculaire que quelqu'un qui a le bras qui repousse ou je ne sais pas, mais d'être changé dans son caractère, c'est un miracle. Parce que s'il y a une chose qui est dure à changer, c'est son caractère. C'est sa façon d'agir. Quand on a pris une ornière, on ne s'en sort plus. Et ça, c'est des fruits visibles, des vies transformées, des alcooliques qui deviennent sobres, des drogués qui deviennent des saints, des prostituées qui deviennent pures, qui se marient, qui ont une famille. On se demande comment c'est possible qu'elle n'a jamais été prostituée. Des personnes qui vivaient dans l'orgueil, dans l'égoïsme, dans la perversion et qui sont transformées par le Seigneur. Combien il y a de témoignages comme ça ? Ou je pense aussi à ces handicapés qui témoignent, qui sont heureux, alors qu'ils sont handicapés gravement. Il y a cet homme, hein, je pense qu'il vit en Australie, qui n'a ni bras ni jambes. Hein, on peut trouver son livre à la Maison de la Bible. Il n'a ni bras ni jambes. C'est un homme tronc. Il est né comme ça, je crois. Et il raconte sa vie. Il est né comme ça. Ouais. Et il dit combien avec Dieu la vie est belle. Combien il se réjouit tous les jours. Il fait plein de choses. Il fait, je crois qu'il fait du skateboard, du surf. Je ne sais pas comment il arrive à faire du surf sans bras ni jambes, franchement. Et ce n'est pas l'idée de faire du surf, c'est que ça ne l'empêche pas d'avoir des projets dans sa vie, ça ne l'empêche pas d'avancer parce qu'il a la foi, parce qu'il voit qu'avec Dieu, tout est possible. Il y a une autre chose qu'on peut voir avec nos yeux, c'est la Bible. Dieu nous a laissé un élément physique, c'est la Bible. Alors bien sûr, cette Bible n'a pas été créée par Dieu exactement, mais le texte, oui, a été inspiré par Dieu. Et la Bible contient des choses extraordinaires, des prophéties qui se sont accomplies, notamment la personne de Jésus. Toutes les prophéties messianiques que Jésus a accomplies des siècles après, c'est extraordinaire. Et puis, on peut fonder sa vie, et c'est là que Dieu devient réel. C'est baser sa vie sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, je base mes décisions, mon avenir, mes choix sur l'enseignement de Dieu. Sur quoi basez-vous vos décisions, vos choix, vos projets? Est-ce que vous dites, ben, moi j'ai des idées, je réfléchis, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça? C'est comme ça que vous choisissez? Un chrétien qui réalise la présence de Dieu, il va baser ses choix, ses décisions sur la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Montre-moi dans ta parole, guide-moi, donne-moi ta sagesse. Vous dites, mais c'est très téméraire de baser toute sa vie sur un livre comme ça? Ce n'est pas un livre comme ça, c'est la parole de Dieu. Et tous les chrétiens qui ont basé toute leur vie et leur avenir, leur mort et leur vie éternelle sur la Bible n'ont jamais été déçus. C'est un livre éprouvé. C'est une sagesse éprouvée. Ce n'est pas de la théorie que vous avez dans la Bible. C'est de la vie réelle. Et si je suis vraiment chrétien, si Dieu est réel dans ma vie, je dois prendre la Bible au mot, je dois accepter qu'elle est vraie et la vivre. Pour terminer, pour que Dieu soit plus réel dans ma vie, je dois vraiment le chercher dans tout ce que je fais et le mettre dans toutes mes actions. Il y a un psaume qui dit « Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire dans tout ce que tu fais, tes voies, c'est tout ce que tu as, tes actions. Tu dois reconnaître Dieu, tu dois même mettre Dieu dedans. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est la voie que Dieu a choisie pour moi, que Dieu a voulu? Je dois reconnaître la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas là, je dois changer de voie. Si Dieu dit non, ça c'est pas la voie que j'avais prévue pour toi, je change de voie. La réalité de Dieu. Quand je prie, est-ce que je passe un peu de temps à réaliser que je prie à Dieu? Dans les réunions de prière ensemble, parfois, hein, on prie aux autres. On fait un message pour le voisin. Combien de fois ça m'est arrivé, hein, d'oublier que je priais Dieu? Ma prière n'était plus vraiment une prière. Ou quand on est dans le culte et qu'on chante les louanges, est-ce qu'on chante vraiment les louanges à Dieu? Ou est-ce qu'on chante parce qu'on aime chanter? Oh, j'aime bien cette mélodie. Mais est-ce que je chante à Dieu? Est-ce que je dis, Seigneur, tu es là avec moi à côté, je chante pour toi. Je t'aime de tout cœur. Quand je suis au travail, est-ce que je pense à Dieu? Est-ce que Dieu est là dans toutes mes voies, dans mon travail? Est-ce que quand j'ai un souci au travail, est-ce que j'ai le réflexe de prier? Seigneur, j'ai un pépin, aide-moi. Ou est-ce que je vais revenir à mes anciennes habitudes? Ouh là là, bon, on va dire un petit mensonge pour s'en sortir. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Où est-ce qu'on a le réflexe de Dieu? Seigneur, tu vois, je suis coincé, j'ai un problème, j'ai raté, j'ai fait une erreur, il faut que tu viennes à mon aide. Quand on est au volant de sa voiture, est-ce que Dieu est là avec nous, à côté, dans le siège passager, en train de trembler? Est-ce que nous mettons Dieu dans toutes nos voies? Alors, est-ce que c'est du fanatisme? Est-ce que c'est exagéré de dire une chose pareille? Mais si Dieu est Dieu, il doit être partout dans ma vie. Parce qu'il m'aime, il est mon Père, il est mon Dieu, mon Seigneur. Et surtout que Dieu veut notre meilleur. Donc, si on le met dans notre vie, tout ce qui va se passer va être le meilleur possible. Et Dieu va être réel. On va commencer à voir la réalité de Dieu. Des gens qui sont sauvés, qui sont transformés, bénis, à travers notre vie. Nous, on ne réalise pas trop, mais c'est la réalité de Dieu qui va commencer à changer. Et ça va changer aussi votre vie, notre vie. C'est qu'on ne va pas s'ennuyer à l'église ou avec la Bible ou je ne sais pas. On ne s'ennuie plus quand la réalité de Dieu est là. Hein. Regardez les premiers chrétiens, ils avaient une réunion de prière où d'un seul coup Dieu a répondu et par un tremblement de terre. Ça vous fait quelque chose quand vous êtes en train de prier, d'un seul coup, la réponse arrive par un tremblement de terre. Et d'un seul coup, vous recevez la puissance du Saint-Esprit et vous allez témoigner avec force, avec joie. Ça, c'est la réalité de Dieu. Lorsque vous voyez des gens venir à Christ tous les jours, lorsque Dieu vous aide dans vos épreuves, dans les pires persécutions, il y a des chrétiens très persécutés qui sont pourtant dans la joie tous les jours. Parce que Dieu est réel pour eux. Alors ne laissons pas les choses nous cacher le Seigneur. Les choses de la vie, les soucis. Dans tout ce qu'on fait, demandons-nous, est-ce que tu es là, Seigneur? Je veux que tu sois là. Je veux te mettre là dans ma vie. Je veux que tu sois réel. Je veux mieux te connaître. Pour moi, tu es lointain. Je te cherche, Seigneur, de tout mon cœur. On va s'incliner dans la prière. Quand on est dans la prière, on peut réfléchir calmement. On peut faire le point sur sa vie, sur son âme. Et peut-être que vous êtes ici en visiteur et Dieu n'a aucune réalité pour vous. Dieu est un concept, une idée, mais il n'est pas une personne que vous pouvez connaître. Et j'aimerais vous dire que Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes en 2014 après Jésus-Christ. Il a montré ses perfections, ses grâces, son amour à travers Jésus-Christ. Et ce matin, il est là, en esprit. Il vous appelle. Il dit « Je suis mort pour toi sur cette croix infâme ». Je t'ai aimé avant que tu naisses. Je t'ai aimé avant que tu me connaisses. Et je t'appelle à venir. Je veux être ton Dieu, ton Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va répondre à l'appel de Dieu? Vous venez avec vos péchés, avec vos défauts, avec vos faillites. Et le Seigneur vous prend tel que vous êtes. Et il a promis de vous pardonner, de vous purifier, si vous mettez votre confiance en lui, en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui tend sa main au Seigneur, qui met sa confiance en Dieu pour la première fois? Et puis, il y a nous, les autres aussi, qui avons déjà accepter le Seigneur dans notre vie. Nous sommes déjà convertis à Dieu, mais la réalité de Dieu s'est effacée très vite et on est tombé dans la religiosité. Et Dieu n'est tellement plus présent. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons arriver à cette crise de foi un peu où on dit « ça suffit, je ne peux plus vivre comme un hypocrite. Seigneur, je veux que tu sois présent dans ma vie, réel. » Je veux avoir les yeux spirituels qui s'ouvrent sur toutes tes grâces, sur toute ta bonté, tout ton amour, tout ce que tu as en réserve. Seigneur, je crois que tu es le Tout-Puissant, que ce n'est pas un vain mot. Je crois que toutes choses sont possibles à Dieu. Seigneur, j'ouvre les yeux sur ta grandeur, ta magnificence, ta justice, ta gloire. Aide-moi à les voir, Seigneur, à ne pas être un chrétien aveugle toute ma vie. Seigneur, purifie-moi et ouvre mes yeux. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen.